FI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement.
Depuis les années 80, la question du bien-être animal est centrale en Suède, où le Parlement a voté des lois pour que les éleveurs en tiennent compte. En Europe, il a fallu attendre 2003 pour que cette question franchisse le Parlement et soit traduite dans le droit. Un droit européen toujours bien en dessous des exigences suédoises. D'autant plus qu'il n'est pas appliqué dans la plupart des pays européens, notamment en France. Mais dans un marché européen ultra concurrentiel, où les consommateurs se préoccupent plus du prix de leur viande que des conditions d'élevage, les Suédois s'interrogent actuellement sur la pertinence à continuer de défendre la question du bien-être animal. Alice Milo est allée en juger par elle-même.
Vi befinner oss i Uppland i Östhammars kommun.
Nous trouvons dans la région de Uppland, la commune de Östhammar, à 400 km au nord de Stockholm, dans une région qui s'appelle Roslagen Nord. Je m'appelle Lars Onestam et c'est mon frère Mats. Et c'est ensemble que nous gérons cette exploitation. Nous l'avons repris de notre père dans les années 70-80, en fait successivement. Nous avons une exploitation porcine. Nous mettons au monde des cochons et nous les élevons jusqu'à ce que les porcelets aient 30 kilos. Ensuite, nous les vendons. Oui, bien là, dans le bâtiment derrière moi et celui-ci sur ma gauche, nous avons les cochons. Et puis là-bas, au fond, c'est l'atelier et la chaufferie. Vous voyez la cheminée qui fume. Et puis tout là-bas, derrière, c'est les céréales. Nous avons des bâtiments où nous pouvons sécher et emmagasiner les céréales et puis nos machines.
On va voir les cochons ?
Yo.
Je vous suis. Les voilà.
Ja, just det. Vi har alltså en besättning på 150-160 suggor.
Donc nous avons environ 150 à 160 truies qui mettent au monde environ 3500 porcelets. Ils sont avec leur mère durant 4 semaines, elles les allaitent. Ensuite, la mère est séparée des petits cochons. Ils sont amenés dans une étable et là, ils vivent par groupe de 50 porcelets. Et ils sont élevés jusqu'à chez nous, jusqu'à 30 kilos. Et ensuite, ils sont encore acheminés vers une autre exploitation, celle que vous allez visiter tout à l'heure.
Quelle est la particularité à faire de l'élevage de cochons ici en Suède?
Mais on peut dire que pour ce qui est de l'élevage porcin, ce qui nous concerne, il y a des règles spécifiques en Suède qui n'existent pas dans le reste du continent européen, notamment au Danemark, qui est notre concurrent le plus proche. Nous sommes obligés de nous pencher sur le bien-être des cochons. Nous avons un élevage qui est moins intensif, il est beaucoup plus intensif dans les autres pays européens. Comme vous le voyez, les truies sont dans des cases spacieuses dans lesquelles elles peuvent se déplacer librement. Ça peut poser des problèmes au moment où elle met bas. Il peut arriver que la truie écrase, tue ses porcelets.
Vi kanske går vidare för att de håller på att föda här borta en sugga. Det tror jag ni vill se.
Oui, bien, suivez-moi si vous voulez parce que là-bas nous avons une truie qui est en train de mettre bas.
On va voir ça.
D'accord.
En alldeles nyfödd gris där som håller på att leta efter sin spene.
On voit une truie qui est en train de mettre bas et un petit cochon qui vient tout nouveau-né qui vient à peine de naître, il est en train de chercher le pied de la truie. Pour l'instant, il a l'air tout faible, tout petit, tout fragile. Mais dans une heure, l'enveloppe qui l'entoure sera tombée et ce sera un petit cochon plein de vie.
Là, il y a le premier qui est né. Elle va mettre au bas de combien de petits cochons là ?
Oui, bien, je vois qu'il y en a un autre qui est derrière. Donc, il y en a déjà deux. Je pense qu'il y en aura entre 12 et 14, peut-être 15, 16.
Oh, il y en a un troisième. Là, c'est vraiment accouchement en direct. Hein. Ils sont tellement petits quand ils naissent, les cochons, qu'on peut comprendre que la mère, qui, la truie qui est tellement énorme à côté avec ses gros pis, puisse par inadvertance en écraser, en fait. Hein.
Ça y est, on jobbe avec eux, mais...
En fait, elle est déjà avec eux, elle communique déjà avec eux, elle leur parle. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un animal maladroit, gros et énorme. En même temps, il ne faut pas trop déranger durant l'accouchement. Ce sont des êtres vivants, ça peut les déranger. Donc nous essayons d'être présents sans déranger, d'avoir un œil pour s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas un petit cochon qui soit écrasé.
Puis là, il y en a un qui est coincé sous la patte. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire là ?
Ja, det ser ut att gå bra nu i alla fall. Men det var lite kritiskt där några sekunder.
Et ça a l'air d'aller bien. Il a l'air de se débrouiller. Ça avait l'air un petit peu critique pendant une seconde, mais il a l'air de s'en sortir.
Je suis Léopoline Charbonneau. Je suis la directrice de CIWF France. CIWF est une association dédiée au bien-être des animaux d'élevage, des animaux de ferme, vraiment spécifiquement spécialisée sur ces animaux-là. Pour les truies, la réglementation européenne a interdit partiellement les cases de gestation à partir de janvier 2013, donc partiellement. Et puis par contre, pour les cases de mise bas, juste après leur naissance, ne sont pas interdites. Et en France, c'est la majorité des élevages utilisent ces cases de mise bas. Une case de mise bas, elle fait la largeur de la truie un tout petit peu plus, la longueur un tout petit peu plus, avec une mangeoire devant.
Ça veut dire que la truie, après avoir mis bas, ne peut pas du tout se mouvoir. Elle peut se lever, s'asseoir, c'est tout.
Exactement. Elle peut se lever, se mouvoir. C'est le seul, un pas en arrière, un pas en avant, c'est tout. Pour éviter qu'elles n'écrasent leur porcelet. De fait, les truies ont été sélectionnées pour avoir le plus de nombre de porcelets possible, et pas tant pour leur qualité maternelle. Donc c'est vrai qu'il y avait des problèmes d'écrasement, et donc on a mis en place ces cases de mise bas qui sont très très restrictives et qui lui permettent très peu de mouvement et qui permettent aux porcelets de se mettre sur les côtés. Et ça, c'est après la mise bas, mais sachant qu'avant, elles sont aussi maintenues dans des espaces très restreints pour une partie de leur gestation. Donc c'est vrai que la vie d'une truie, c'est plus de la moitié de sa vie dans une cage.
Refuser d'avoir les cases de gestation et les cases de maternité pour vos truies. Est-ce que vous avez trouvé des alternatives pour éviter l'écrasement des petits ?
Oui, il y a des alternatives. Être présent lorsque la truie met bas, être attentif et apprendre aux petits cochons à venir se mettre sous la lampe chauffante.
Là, elles sont presque dans un élément naturel.
Man har ju försökt att efterlikna naturen så mycket som möjligt här.
Mais oui, c'est aussi proche de la nature que possible. C'est ce qu'on a voulu faire. On a essayé de reproduire ce qu'il y avait dans la nature. Et puis il y a cette paille. Dans des conditions naturelles, on peut dire que la truie se fait un lit ou un nid, je ne sais pas. Et là, avec la paille, c'est ce qu'elle se fait. Lorsqu'elle va mettre bas, elle se prépare un petit lit pour pouvoir mettre bas.
Et alors là, on voit la truie donc, qui s'est couchée sur le côté. C'est très drôle, hein. Elle a une dizaine de petits qui se sont précipités sur ses mamelles pour aller téter. Et elle est sagement en train d'attendre que ses petits aient fini de manger. Ça, cette vision-là, elle est propre à la Suède. C'est-à-dire que ici, l'animal est libre, en fait, la mère est libre de circuler, de s'allonger.
Ja, men jag tror att de har ju lättare att kommunicera med varandra, så mamman och de små grisarna.
Je pense qu'avec ce système-là, c'est plus facile pour la mère de communiquer avec ses petits. Elle leur dit, elle leur parle, elle leur dit maintenant c'est l'heure de manger. Nous, bon, mais ça, on comprend pas, mais on le devine. Bien sûr, c'est un risque. Elle pourrait écraser ses petits. Ça arrive, bien sûr, mais en même temps, elle a des yeux, elle peut voir, elle a de l'espace, et on voit qu'elle est prudente. Elle fait attention où elle met les pieds, vous l'avez vu.
Donc vous êtes prêt à prendre le risque qu'il y ait des pertes. C'est-à-dire que dans le reste de l'Europe, si on utilise ces fameuses cages de maternité, c'est pour éviter que les petits soient écrasés. Vous prenez le risque qu'il y ait des petits qui soient écrasés. Pour vous, c'est un sacrifice nécessaire ?
Det har vi ju gjort här sedan 80-talet kan man ju säga. Det var ju då de här lagarna skärptes upp.
Oui, en fait, ce risque, nous l'avons pris depuis les années 80. C'est dans les années 80 que la législation a changé. Autrefois, nous avions nous-mêmes des truies qui étaient fixées dans la production. Et il faut dire que cette législation qui est arrivée dans les années 80, elle est arrivée à cause ou grâce à un écrivain, une femme, Astrid Lindgren, qui est l'auteur du livre pour enfants Fifi Brin d'Acier. Et en fait, c'est une loi qu'elle a eue pour son anniversaire. C'était un cadeau d'anniversaire. Parce qu'elle était vraiment une militante pour le bien-être animal. Elle écrivait beaucoup sur les animaux. Elle est très connue. C'est vraiment une icône en Suède. Elle est connue également dans le monde entier.
Et
nous avons également eu une loi en 86 qui a interdit l'utilisation des antibiotiques pour que les cochons puissent grandir davantage.
Et
bien sûr, c'est pour le bien. Enfin, il y a du pour et du contre. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que le consommateur suédois soit prêt à payer la différence. Ça coûte plus cher. Ils ne le sont pas toujours. Ils choisissent quelquefois de la viande danoise ou de la viande allemande, qui est donc moins chère.
Et quand vous parlez de la différence de prix, c'est-à-dire que vos concurrents danois, par exemple, qui ne respectent pas les mêmes réglementations que vous et qui vont, par exemple, élever des porcs dans des conditions qui ne tiennent pas compte du bien-être animal, la différence de prix, elle est de combien ? 10%, 15%, 20% plus cher ?
Oui, c'est au moins 20%. La différence, c'est d'au moins 20%, mais c'est difficile de le savoir exactement parce qu'il y a beaucoup de campagnes publicitaires danoises avec des prix plus bas. Le marché est complexe. Mais le Danemark est un très gros producteur qui nous inonde de sa viande, surtout les filets mignons. C'est un morceau de viande qui n'est pas le meilleur, qui est plutôt sec, mais dont les Suédois raffolent. Pour eux, c'est le top du top, c'est la meilleure partie, oui.
Le bien-être animal, ça a un coût. Comment est-ce que vous faites financièrement ?
Oui, nous avons surtout des subventions pour le bien-être animal. Enfin, en fait, c'est de l'argent qui vient de l'Europe, mais qui est géré par la Suède. C'est la Suède qui gère ces subventions.
Mais vous, ces subventions que vous recevez de la PAC pour le bien-être animal, elles vous permettent de faire quoi, en fait, sur la ferme ?
Pas grand chose, c'est de l'argent qui sert à combler la différence entre notre modèle de production et le modèle des productions d'autres pays. Mais il y en a beaucoup qui disent qu'il nous faudrait un montant trois fois plus élevé pour réellement compenser le manque à gagner.
Mais alors, cette loi en ce moment, elle est remise en cause ou pas alors ?
Oui, cette loi est remise en question. On ne peut pas, on ne fait pas le poids face à la concurrence européenne. Donc cette loi, ce système de production, il ne peut fonctionner que grâce à la bonne volonté des consommateurs suédois, à leur préoccupation pour le bien-être animal.
Vous, aujourd'hui, vous lancez un appel en fait aux consommateurs suédois en leur disant n'achetez pas danois, n'achetez pas chez les concurrents, achetez suédois même si ça coûte plus cher.
Exact, så var det.
Oui, exactement. Et ça peut se voir dans les boutiques, dans les commerces. La consommation de viande suédoise a augmenté, les importations ont baissé et on peut même voir une toute petite augmentation. En fait, on peut dire qu'il y a eu un réel changement de tendance.
Vous êtes vraiment le pays le plus en pointe en termes de bien-être animal. Comment les autres pays regardent-ils ça ?
Oui, tout à fait, on est à la pointe pour ce qui est du bien-être animal, à tel point que les Danois, par exemple, peuvent se moquer un petit peu de nous en disant « et c'est quand vous installez la table de billard ?» dans les box. Quand on regarde ce box, on voit que c'est bien, les cochons sont bien, on n'est pas choqué de ce qu'on voit.
Grisarna också, till exempel, kan man få höra. Piggy say, I say, piggy's always say, piggy's never wanted more. The piggy's I say, know the piggy truth, piggy's did want more. Stock my green store. More, more, more. Piggies gotta have more. More, more, more. Bring it to my door. More, more, more.
Je m'appelle Lotta Riedman, je suis professeure d'animal génétique et je travaille avec la recherche et l'éducation ici à l'université.
La question du bien-être animal est centrale en Suède depuis des années. Dans les années 80, nous avons eu une loi pour préserver le bien-être animal. Mais aujourd'hui, il y a des éleveurs qui commencent à dire qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'on ne peut plus continuer d'avoir cette loi et d'être les meilleurs en Europe sur ces questions-là, parce que ça coûte plus cher.
Il y a une certaine hypocrisie sociale, quelque part ?
Yes.
Comment vous l'avez senti, ce changement de perception de la part des éleveurs qui commencent à être fatigués de faire tout seuls des efforts ?
Yes, that's...
Oui, ça monte progressivement depuis un an. Jusqu'ici, ce n'était pas très bien vu de remettre en question cette loi sur le bien-être. Mais maintenant, si.
Aujourd'hui, vous attendez que l'Europe pousse dans ce sens sa réglementation.
Yes, we hope that the animal welfare law in Europe.
Oui, on espère que les lois européennes vont progresser dans ce sens et qu'elles seront aussi mieux appliquées. Mais même si l'Europe va dans ce sens, il y aura toujours des produits moins chers venus d'ailleurs dans le monde, par exemple des États-Unis, grâce au traité transatlantique. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités sur la viande qu'on accepte d'importer et celle qu'on produit. Et là-dessus, on est tous égaux.
Une fois que les petits cochons de Lars Onestram sont suffisamment grands, ils partent dans une autre ferme à quelques kilomètres de là, chez Père Henrik, où ils sont engraissés jusqu'à l'abattoir. Et nous allons maintenant chez Père Henrik. Hey.
Hey.
Bonjour.
Hey, välkomna till min gård här i Gåsvik, Väddö, Sverige. Och kom så kan vi gå och titta på våra grisar.
Bienvenue en Suède, c'est mon exploitation, ma ferme V2 et je vais vous montrer mes cochons.
C'est par ici, c'est ce hangar là.
Ja, det här vi har våra grisar.
Oui, c'est là que nous avons nos cochons qui sont totalement en liberté.
Ici, vous avez mis de la paille. Dans les autres pays européens, les cochons sont élevés sur caillebotis, c'est-à-dire qu'ils sont élevés sur une grille, en fait, à travers laquelle les déjections peuvent passer. Vous, vous avez fait le choix de mettre de la paille pour vos cochons. Pourquoi est-ce que la paille, c'est important pour vos cochons ?
Donc la paille, c'est pour différentes raisons. D'abord parce que les cochons, ils aiment avec leur groin fouiner avec la paille, ça les amuse. Et puis ça permet de garder la litière chaude avec les excréments et l'urine. Mais quand on garde la surface du dessus bien sèche, c'est parfait. Et puis ça leur donne la possibilité de courir, de bouger, d'avoir de bonnes jambes. Et ça donne de la bonne viande. Lorsque la queue est en tire-bouchon, lorsque la queue fait plus d'un tour, c'est que le cochon est heureux et content. Parce qu'une queue qui tombe entre les jambes, c'est une queue de cochon qui n'est pas heureux, qui ne va pas bien. Une queue toute raide, c'est une queue de cochon qui a peur. Et puis on le voit également à la viande. Lorsque la viande est très claire, très, très pâle, c'est que le cochon a été stressé. Et ça peut être le cas, notamment au moment de l'abattoir. Quand il est dans un box tout seul, le cochon, il n'a pas grand-chose à faire. Il s'ennuie. Le grand événement de la journée, c'est quand la nourriture arrive. Alors là, ils se battent tous pour manger. Ça cause beaucoup de stress. Et le stress, c'est dangereux pour les hommes. C'est dangereux pour les cochons également. Et ça donne de la mauvaise viande. Puis je crois que la troisième chose, c'est le fait d'avoir une occupation mentale. Ils s'amusent, ils jouent, ils fouinent, ils font ce qu'un cochon doit faire. Ils ont la possibilité d'avoir leur comportement naturel. Et ça, je pense que c'est très important. Donc c'est trois choses, il y en a peut-être d'autres, mais je pense que ce sont pour moi les points essentiels.
Nous
pensons que les animaux, durant leur vie, ont le droit de vivre de façon aussi naturelle que possible. Et puis après, quand c'est le moment, eh bien, pan boum, il faut que ça aille vite, pas de long transport. Nous pensons que c'est important.
C'est
également intéressant sur le plan économique d'avoir des animaux qui sont en bonne santé. On a besoin de moins de médicaments, moins d'antibiotiques. On ne fait pas de prévention, pas d'antibiotiques. génétique.
Nous,
on veut se sentir bien. Quand on est avec des animaux qui sont dans des conditions atroces, on ne peut pas aller bien nous-mêmes, on ne peut pas dormir la nuit.
Un cochon, c'est un animal hyper intelligent, curieux, qui a le besoin naturel de fouiller le sol. À l'état naturel, il passera 75% de sa journée à fouiller à la recherche, par curiosité et à la recherche de nourriture. La réglementation européenne dit, par exemple, il faut fournir aux porcs des matériaux manipulables et donne des exemples comme de la paille, de la tourbe, du foin, des éléments comme ça. Mais c'est pas compatible avec le caillebotier intégral. Ça risque de le boucher. Et en fait, en France, on a une interprétation à minima de la réglementation et on a décidé que des objets, ça pourrait aller aussi. Alors que de fait, ça devrait être des matériaux. Ce qui fait que comme ils n'ont rien à faire les porcs, ils n'ont rien à explorer, eh bien, ils voient ce qu'ils ont autour d'eux, c'est les queues des congénères. Donc, pour s'occuper, ils mâchouillent un petit peu les queues des congénères. Ça crée des blessures et c'est pas bon pour le produit, le jambon, des choses comme ça. Donc, en préventif, entre guillemets, on leur coupe dans les premiers jours de vie. Et de fait, dans les élevages français, ça fait partie des opérations de routine. Quand les porcs se laient en quelques jours, on coupe les queues et on lime les dents souvent. Elle est faite sans anesthésie, alors que cette coupe systématique est aussi interdite par la réglementation européenne. Elle peut avoir lieu en cas de problème, si les conditions d'élevage ont été changées, mais de fait, elles ont lieu de façon systématique en pratique en France.
Est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'il faut faire pression pour que il y a une harmonisation vers le haut de ce bien-être animal.
Mais moi, je pense que c'est celui qui paie, qui décide. C'est le client qui va faire en sorte que les choses vont changer. On ne peut pas forcer les choses à travers une législation quelconque. Je pense que les gens ont envie de manger des animaux qui ont eu une bonne vie. Et puis moi, j'ai ma responsabilité vis-à-vis de la terre de respecter l'écosystème. Cycle, de respecter l'écologie de la terre, faire en sorte que je puisse ensuite faire passer mon exploitation à la génération suivante. C'est très important, les Indiens l'avaient bien compris, nous ne faisons qu'emprunter la terre de nos enfants. Et ça, je pense que l'industrialisation a fait qu'on a oublié tout ceci.
Souvent, on accuse les gens qui travaillent dans la protection animale, effectivement, de sensiblerie. Je pense que c'est pas le cas. L'élevage industriel, c'est quand même une des plus grandes sources de souffrance animale. Il y a des modes d'élevage respectueux des animaux et il y a l'élevage industriel qui est 80% de l'élevage en Europe, qui est vraiment tellement intensif qu'on adapte les animaux au système d'élevage plutôt qu'avoir un élevage qui correspond aux animaux. C'est une question de bien-être animal, parce que le cochon est un animal très intelligent, donc c'est vraiment un respect du vivant et un respect de l'être sensible qu'est l'animal. Et aussi, sur l'aspect santé, la moitié des antibiotiques utilisés au monde sont pour les animaux. Dans l'élevage industriel, on veut que ça aille le plus vite possible, que ça grossisse le plus vite possible. Et donc, c'est des animaux qui sont poussés à l'extrême. L'âge de sevrage est très tôt. Donc, le système immunitaire de l'animal n'est pas maximal. Donc, il est aussi dans un environnement où il est très stressé. Il ne peut pas exprimer ses comportements naturels. Donc, son système immunitaire est bas. Et donc, on a plus recours aux antibiotiques. Et si les traitements ne sont pas assez ciblés et assez forts et assez courts, on se retrouve avec des traitements antibiotiques longs, de fond, qui encouragent l'antibiotique. Antibiorésistance, c'est-à-dire que les bactéries deviennent résistantes et peuvent se transmettre à l'homme. Il y a pas mal d'éleveurs qui sont porteurs de superbactéries résistantes et on n'a pas de quoi les traiter quand ils ont une infection. Et ça, c'est pour les éleveurs qui sont le plus proche des animaux, mais ça se propage aussi au-delà. Et on peut envisager un stade où, pour des infections mineures, on n'aura plus d'antibiotiques efficaces parce que l'antibiorésistance aura pu se développer. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect santé publique, un aspect environnement, au-delà des aspects simplement bien-être animal. Il y a quelques années encore, quand on en parle, les gens se posaient même pas la question. On parlait de la protection des animaux, on parlait chiens, chats, on pensait même pas aux animaux, on mangeait. Je crois que maintenant, il y a quand même une prise de conscience sur l'importance, une connaissance, on a plus de connaissances sur l'éthologie, sur les besoins des animaux, et sur aussi peut-être une consommation plus éthique. On revient peut-être un peu en arrière par rapport à une consommation à outrance en quantitatif.
Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à l'argument qui aujourd'hui en temps de crise dépasse tout, c'est plus cher ?
ça peut être plus cher, ça ne l'est pas forcément toujours. Je pense qu'il faut réfléchir à sa consommation de produits animaux en général, se dire bah, peut-être, voilà, c'est vrai que c'est plus cher, mais je choisis ça et peut-être j'en prends un petit peu moins, ou je réduis mes portions, parce que je crois en des meilleures conditions d'élevage, probablement des meilleurs revenus pour les éleveurs, et un système plus durable, et en plus c'est meilleur pour moi, et ça a souvent un meilleur goût. Donc quelque part, le calcul du tout quantitatif n'est pas forcément optimal. On a tous des contraintes budgétaires, bien évidemment, mais on peut aussi réorienter notre panier en fonction des éléments et voilà, faire des choix différents, peut-être moins de quantité, plus de qualité.
Un reportage d'Alice Milo réalisé par François Porcheron avec le soutien de l'Union européenne. La semaine prochaine, nous serons au Gabon. Nous vous invitons à nous rejoindre à l'Institut français de Libreville pour assister à l'enregistrement de deux émissions en public vendredi 5 juin entre 17h et 19h. Nous verrons avec nos invités comment lutter contre le braconnage et gérer durablement les forêts dans un pays qui en est recouvert à 85%. Vous pourrez poser des questions sur place. Pour cela, faites-vous connaître en nous écrivant à C'est pas du vent @rfi.fr ou sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter hashtag C'est pas du vent. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à samedi prochain, même planète, même heure.